Bonjour les oreilles et bienvenue dans l'émission Conte Goutte, une émission dédiée au conte, à son contexte et à ses multiples interprétations. Une émission dédiée à toutes ces histoires qu'on raconte pour s'endormir, se réveiller, pour partir et peut-être revenir. Je vous donne une poignée de mots pour qu'ils ne tombent ni de haut ni dans l'oubli, faites-en bon usage. Je suis Caroline et je vous propose de faire la route en ma compagnie pour une petite demi-heure et à toute heure du jour et de la nuit, dimanche et jours fériés compris, en podcast sur le site de Radio Campus Grenoble. Si vous avez peur des fantômes, d'épouser votre sœur, des serpents ou d'un séjour tout frais payé en enfer, passez votre chemin. Car s'il a fallu du courage au personnage que nous allons rencontrer aujourd'hui, il vous en faudra aussi pour accepter que parfois, les choses sont injustes et que non, l'amour ne triomphe pas de tout. Allez, c'est parti. Aujourd'hui, on parle de courage et d'interdit. Le courage est une notion qu'on rencontre souvent dans les histoires. Que ce soit pour faire face à une méchante sorcière, pour affronter un dragon ou pour assurer l'entretien d'une maison habitée par sept nains, le courage est toujours utile. Il naît parfois grâce à l'énergie du désespoir ou il peut être déclenché par un sentiment d'injustice. Le conte qui suit s'intitule « Le serpent et l'Indien ». Il y est question de courage, bien sûr, mais aussi d'égalité et de promesse. Je vous le lis et on en reparle après. En ces temps étranges, le soleil s'était arrêté au-dessus de la terre comme s'il allait la regarder indéfiniment de son œil de feu. Il n'y avait ni ombre ni nuit. Les hommes et les bêtes avaient du mal à dormir. S'ils s'assoupissaient un instant, la brûlure de la lumière leur mordait les yeux et les réveillait vite. Seuls les serpents s'en accommodaient. On les voyait se glisser sous les pierres ou s'enfouir sous les racines des arbres, quêtant l'humidité et l'ombre bienfaisante. La raison en était simple. Les serpents possédaient la nuit et les ténèbres. Par quel incroyable hasard ? Nul ne savait. C'était ainsi. Les Indiens décidèrent d'y mettre fin. Que certains détiennent, et eux seuls, le secret de l'ombre leur semblait profondément injuste. Le chef des Indiens s'enfonça donc au plus profond de la grande forêt, là où les serpents vivaient, pour les prier de partager les ténèbres avec tous. Le roi des serpents dormait dans son palais d'ombre fraîche quand le chef des Indiens se dressa devant lui. Au bruit qu'il fit, le reptile se réveilla en sursaut. « Qui es-tu, toi qui oses interrompre mon repos ? » siffla-t-il. L'autre leva ses bras en signe de paix et déposa au pied du serpent un arc magnifique et des flèches à la pointe d'or. « Je ne suis qu'un pauvre homme qui vient te demander un peu de nuit et de ténèbres. En échange, voici le plus beau présent que je puisse t'offrir. » Le serpent le fixa de son œil immobile. « Que puis-je faire d'un arc, moi qui n'ai pas de main ?» Le chef des Indiens songea que l'animal avait raison. Il retourna chez les siens, convoqua le conseil des anciens qui décida d'offrir au serpent une crécelle. « Sage idée !» pensa le chef. « Elle lui sera utile pour accompagner les danses de son peuple. » Il s'aventura de nouveau au cœur de la forêt. Le roi des serpents l'attendait. Il considéra la crécelle d'un air songeur. « Que puis-je faire d'une crécelle, moi qui n'ai pas de main ?» Mais cette fois, le chef des Indiens avait une réponse. « « Je vais l'attacher au bout de ta queue, cela t'amusera. » Ce qu'il fit. Quand le roi des serpents remua la queue, la crécelle grinça. Il trouva cela assez drôle en effet. Alors, il donna au chef des Indiens un peu de nuit et de ténèbres, qu'il emprisonna dans un sac de cuir. L'homme soupesa le sac et le trouva bien léger. « Dis-moi, roi des serpents, que voudrais-tu en échange de la nuit tout entière et de ces ténèbres ?» Le serpent réfléchit, l'œil mi-clos. « Ce que tu me demandes là est considérable. 100 crécelles ne suffiraient pas. Apporte-moi plutôt une grosse cruche de ce terrible poison dont vous enduisez la pointe de vos flèches. » Le chef des Indiens retourna au village. Les siens le reçurent triomphalement et lorsqu'on ouvrit le petit sac de cuir, la nuit et ses ténèbres recouvrirent la terre. Les Indiens s'en furent dormir. Mais le sac était minuscule et la nuit fut de courte durée. À peine le sommeil s'était-il installé sous les paupières que la lumière l'enchassa. Le soleil revint chauffer la terre et brûler les yeux. Les Indiens ne s'accommodèrent point de ce jour si long et de cette nuit si brève. On convoqua le conseil des anciens qui autorisa le chef à porter au roi des serpents une cruche pleine de poison. Ce fut un long, un très long travail que de recueillir goutte à goutte l'énorme quantité de poison, mais ils y parvinrent. tant était grand leur désir de ténèbres. Pour la troisième fois, le chef des Indiens s'enfonça dans la forêt d'émeraude. Le roi des serpents avait fait préparer dans un grand sac une longue nuit pleine de ténèbres et il l'offrit à l'homme en échange de la grosse cruche. « Je te remercie, au nom des miens, » dit le chef des Indiens. « Mais une chose m'intrigue. Que vas-tu faire de ce terrible poison ?» Le serpent soupira. « Vois comme nous sommes. Petits, faibles pour la plupart, inoffensifs et désarmés. Trop de gens nous font des misères. Ce poison servira à nous défendre à l'occasion. » L'homme hocha la tête. Il était juste que tous puissent se protéger. Il mit le grand sac sur son épaule. « Surtout, n'ouvre pas ce sac avant d'être arrivé chez toi, » ajouta le serpent. « Les ténèbres envahiraient la terre avant que j'aie eu le temps de distribuer le poison à tous les miens. » Le chef promit et s'enfuit vers son peuple. Mais sur le chemin, il rencontra le perroquet. « Qu'as-tu sur tes épaules ?» À peine avait-il répondu que l'indiscret volatile s'envola en criant à tue-tête « L'homme porte dans son sac une longue nuit pleine de ténèbres, venez tous !» Et tous les animaux de la forêt s'attroupèrent autour du chef. « Montre-la nous, nous sommes impatients de la voir !» Le chef refusa, rappelant la promesse qu'il avait faite au serpent. Hélas, les animaux ne voulurent rien savoir et lui arrachant le sac des mains, l'ouvrirent en poussant des cris de joie. Tout aussitôt, les ténèbres jaillirent qui plongèrent la terre dans l'ombre la plus épaisse. Ainsi qu'il l'avait dit, le roi des serpents était en train de répartir le poison entre les siens et la grande nuit noire l'empêcha de poursuivre sa tâche. Les serpents, affolés, se bousculant pour avoir leur part, renversèrent la cruche de poison. Ce fut le plus grand désordre. Les uns réussirent à emporter une grande quantité de poison, d'autres en eurent un peu et certains pas du tout. Voilà pourquoi aujourd'hui il y a des serpents venimeux, dont la morsure est parfois mortelle, et des serpents qui ne le sont pas. Ce n'est pas toujours facile à deviner, sauf pour les descendants du roi. Ceux-là portent tous une crécelle au bout de la queue, ce petit cadeau amusant du chef des Indiens. Vous venez d'entendre un conte étiologique, c'est-à-dire que ce conte a pour but de vous expliquer l'origine d'un phénomène. Ici, il s'agit du fait que certains serpents sont venimeux et d'autres pas. Ce conte traite en effet de la notion de courage. C'est pour réparer une inégalité que le chef des Indiens prend son courage à deux mains et va parler au roi des serpents. Le chef des Indiens voit son courage récompensé lors d'un échange qui aurait dû être équitable pour les deux parties. C'est donc un conte qui traite de l'importance des promesses faites, d'égalité et du poids de la parole. Son courage se situe ici dans sa parole, car je vous rappelle qu'à ce moment-là, les serpents ne sont pas encore venimeux, ils le seront, pour certains, après la dernière visite du chef des Indiens. La prochaine histoire dont il va être question s'intitule « Prends-moi ». Si précédemment il s'agissait du courage des mots, de la prise de parole, ici il s'agit d'une forme de courage qui se traduit en acte. Il était une fois, il y a de cela très très longtemps, trois frères qui vivaient dans un village retiré. Ensemble, ils travaillaient la terre qu'ils avaient héritée de leurs parents et le produit qu'ils en tiraient suffisant à peine pour faire vivre trois jeunes hommes robustes. Ils avaient beau travailler autant qu'ils le pouvaient et vivre aussi modestement que possible, jamais il ne leur restait quelque argent que ce soit. Le pire moment, c'était lorsque, à la fin de l'année, il fallait payer les impôts. « Ce n'est pas possible de continuer ainsi », décida un jour Saburo, l'aîné des frères. « Je vais chercher à entrer en service quelque part. Vous vous arrangerez aussi bien sans moi et je ne reviendrai que lorsque j'aurai suffisamment d'argent pour payer les impôts. » Les frères furent d'accord et ainsi Saburo chercha à se louer quelque part. Dans la ville proche, un marchand l'engagea comme charretier. Pendant 6 mois, Saburo conduisit les charrettes chargées de thé, de sel et d'autres marchandises, allant d'un marché à l'autre. Le marchand lui donna son salaire. Saburo noua les pièces de bronze dans un linge et prit le chemin du retour. Il marcha vite, mais le soir tombait et pour atteindre le village, il lui fallait encore traverser une forêt profonde. Bien que Saburo eût un peu peur, il continua sa route car les frères devaient l'attendre puisque le lendemain était le dernier jour de l'année. Quels yeux ils feront quand il mettra l'argent sur la table ? Et même s'il ne l'attendait pas, il fallait qu'il continue puisque dans les environs, il n'y avait aucune maison où il aurait pu passer la nuit. Il ne lui restait donc rien d'autre à faire qu'à réprimer sa peur et à s'engager dans la forêt. Il avança rapidement, ne regardant ni à gauche ni à droite, mais fixant l'étroite bande de ciel qui surplombait le chemin entre les cimes des arbres. La forêt était calme et, peu à peu, le courage revint à Saburo. « J'ai déjà fait plus de la moitié du chemin. Que pourrait-il bien encore m'arriver maintenant ? Tout est tranquille autour de moi, je n'ai donc vraiment aucune raison d'avoir peur. » Mais soudain, un point brillant voleta devant lui, au-dessus du chemin. « Qu'est-ce que c'est ?» Il était effrayé, mais aussitôt il reprit son courage. « Il ne montrait plus, je crois, au fantôme. » Néanmoins, il ralentit sa marche et observa attentivement le chemin qui s'étendait devant lui et au-dessus duquel de plus en plus de petits points luisants se mettaient à danser. Ces lumières traçaient des ronds au-dessus du chemin entre les arbres et se rapprochaient de plus en plus, lentement et silencieusement. Bientôt, Saburo perçut un léger bourdonnement qui semblait provenir des lumières et qui se transformait en un murmure étrange. Blême, Saburo s'arrêta et entendit distinctement des voix provenant du cercle des lumières étincelantes et dansantes qui disaient « Si tu me veux, prends-moi, si tu ne me veux pas, laisse-moi. Si tu me veux, prends-moi, si tu ne me veux pas, laisse-moi. » Et les lumières s'approchaient de plus en plus. « Que veux-tu que je fasse de toi ? Laisse-moi plutôt, toi !» cria Saburo, effrayé, qui se mit à fuir de toutes ses jambes. Hors d'haleine et le cheveu hérissé, il atteignit enfin sa maison. Et comme si le fantôme était encore sur ses talons, il entra en courant sans même ôter ses sandales et se laissa tomber, épuisé, sur une natte. Les frères étaient en train de dîner. « Mais que t'arrive-t-il pour que tu entres ainsi en courant sans même saluer ? Et regarde comment tu as sali les nattes !» Saburo enleva vite ses sandales et ferma soigneusement la porte. « Mes chers frères, vous ne pouvez pas vous imaginer à quel danger je viens juste d'échapper » dit-il enfin après s'être calmé un peu. « Dans la forêt. » À mi-chemin d'ici environ, des fantômes luisants m'ont attaqué. J'étais tout seul et nulle part il n'y avait un endroit où j'aurais pu me cacher. Ils ont dansé autour de moi en criant sans cesse « Prends-moi, prends-moi !» Si j'ai pu m'échapper, c'est grâce à mes jambes rapides. « Et ils ne t'ont rien dit d'autre ?» demanda Hashiro, le plus jeune des frères dont la force et le courage étaient connus dans tout le village. « J'ai pas attendu la suite. J'étais trop heureux de ne pas être pris moi-même, » répondit Saburo. « Ce sont vraiment d'étranges fantômes, » dit Rokuro, le cadet méditatif. « Peut-être aurais-tu les prendre, ainsi ils auraient cessé de hanter la forêt. N'as-tu pas dit que c'est à mi-chemin entre ici et la ville qu'ils te sont apparus ? Sais-tu, je vais y aller et voir ce que sont ces fantômes. » Et il sortit. La nuit était tout à fait tombée et, dans l'obscurité, il pouvait à peine reconnaître le chemin. Soudain, il avait peut-être fait la moitié du chemin, il vit luire quelque chose dans l'ombre de la forêt. Rokuro s'arrêta et, en s'approchant, il perçut un murmure indistinct. Quelques pas plus loin, il entendit très distinctement « Si tu me veux, prends-moi. Si tu ne me veux pas, laisse-moi. Si tu me veux, prends-moi. Si tu ne me veux pas, laisse-moi. » Et les lumières s'approchaient de plus en plus et dansaient autour du jeune homme. Alors Rokuro fut saisi de terreur. Il avait l'impression que les lumières allaient se jeter sur lui. Il fit demi-tour et s'enfuit aussi vite qu'il le put. En voyant le visage blême de son frère, Hashiro dit « Vous êtes tous les deux des poltrons. Vous tremblez devant des paroles, car les lumières ne vous ont même pas touché. C'est moi qui vais maintenant aller sonder ces fantômes. » Il alla chercher une corde dans la chambre et dit « Nous verrons bien si les lumières crieront « Prends-moi » lorsque je les attaquerai avec la corde. » Entre-temps, la nuit s'était encore épaissie. Arrivé à environ la moitié du chemin qui mène vers la ville, il vit à son tour les lumières luisantes danser autour de lui. Et comme il n'avait pas peur, il se trouva bientôt au milieu d'elles. De tous côtés, il entendait un bourdonnement « Si tu me veux, prends-moi. Si tu ne me veux pas, laisse-moi. » Toute la forêt semblait retentir de ce murmure étrange « Si tu me veux. » Et Hashiro se pencha. « Hop, saute-moi dessus pour que je voie qui tu es !» À cet instant, les lumières disparurent et le murmure se tut. Mais Hashiro sentit un poids énorme sur son dos. C'était un garçon très fort et pourtant il s'affaissait presque sous le fantôme qui lui avait sauté sur le dos. Il rassembla toutes ses forces et se redressa. Il dénoua la corde qu'il avait serrée autour de sa taille, la jeta sur la chose inconnue qui se trouvait sur son dos et serra. Puis, il fit demi-tour avec précaution et s'achemina, haletant, vers le village. C'était la nuit, mais le fantôme sur son dos irradiait une telle lumière que le chemin devant lui était éclairé comme en plein jour. À chaque pas, le fardeau s'alourdissait au point qu'il eut à faire les plus violents efforts pour le ramener chez lui. Et pourtant, c'était le garçon le plus vigoureux de toute la région. Avec un soupir de soulagement, il atteignit enfin la cour et voulut se débarrasser du fardeau. Mais il avait beau se retourner et se retourner, l'étrange chose était comme soudée à son dos. « Ne t'imagine pas que je vais te porter éternellement, » dit Hachiro. Il se précipita dans la cuisine et du dos se cogna contre le mur. Un tintement joyeux se fit entendre et des pièces d'or se mirent à rouler de tous côtés. Il y en avait tellement qu'elles glissaient jusque dans la cour et longtemps après, les frères trouvèrent encore des pièces d'or dans les fentes du plancher. Les frères brassèrent l'or à pleine main et louèrent le courage du Benjamin. « Quel beau fantôme !» dirent-ils tous joyeusement. « De l'or qui voulait venir parmi les hommes !» Depuis ce temps, ils ne connurent plus jamais la misère et vécurent heureux et contents jusqu'à la fin de leur jour. Dans cette histoire, nous sommes confrontés à un schéma assez classique. C'est un homme fort qui surmonte sa peur pour faire face à un fantôme. Le courage de trois frères est récompensé puisque, pour avoir réussi à dompter un fantôme, ils deviendront riches.
اسمها جديد.
Vous êtes sur Radio Campus Grenoble 90.8. Vous êtes toujours à l'écoute de Conte Goutte, une émission dédiée au conte, à son contexte et à ses multiples interprétations. Je suis au regret de vous annoncer que parfois, peu importe votre courage, votre volonté et votre motivation, votre entreprise est complètement vouée à l'échec. Ce n'est pas à moi qu'ils font vouloir, c'est pas moi qui l'ai décrété. Parfois, la fatalité s'en mêle et on ne peut rien faire pour la déjouer. C'est malheureusement ce qu'il advient dans le conte « Le rocher de la tente ». Il était une fois un jeune homme qui habitait dans un village de la haute région avec sa sœur, âgée d'à peine 6 ans. Ils avaient perdu leurs parents lors d'une inondation à la saison des pluies. Désormais seuls au monde, ils ne vivaient plus que l'un pour l'autre. Il la protégeait avec tendresse, elle éclairait sa vie par ses rires, sa gaieté, les chants qu'elle égrenait à longueur de temps. Leur intérieur était pauvre et la vie difficile, mais il leur suffisait de se regarder pour oublier la précarité de leur existence. Un matin, la fillette proposa à son frère de faire un tour à la fête du printemps que tout le village s'apprêtait à célébrer. Le jeune homme la suivit. Ils déambulèrent au milieu des festivités. Le couple s'arrêta devant un vieil homme qui proposa de lire leur avenir. L'enfant supplia son frère. Il accepta en souriant. L'homme les contempla attentivement et leur demanda leur date de naissance avant de jeter des calculs sur une feuille de papier. Après quelques minutes de silence, il déclara « Si tels sont les jours et les heures de vos naissances, vous épouserez fatalement votre sœur. Rien ne pourra détourner le cours de votre destin. » La prédiction épouvanta les orphelins. Mais si la fillette l'oublia vite, le jeune homme ne put s'en défaire. L'idée le hanta, jour et nuit, ne lui laissant aucun répit. Il cacha ses tourments du mieux qu'il put, mais ne parvint pas à chasser de son esprit les paroles du vieillard. Il prit une résolution désespérée. Un jour, qu'il allait dans la forêt couper du bois, il proposa à sa sœur de l'accompagner. Il s'enfonçait toujours plus loin, mais elle le suivait sans y prendre garde, évidemment confiante en lui. Elle se pencha pour cueillir une orchidée sauvage. Le jeune homme leva sa hache et la laissa retomber sur la nuque de l'enfant avant de s'enfuir. Il marcha 10 jours et 10 jours, poursuivi par son crime, hanté par l'image de sa sœur effondrée sur le sol sans un cri. Il n'en était pas moins délivré de son obsession première. Il décida de changer de nom et s'inventa un passé. Puis il s'établit à plusieurs centaines de kilomètres de là. Peu à peu, le temps apaisa ses remords et il retrouva la paix. Il réussit dans le commerce d'étoffes et parvint à étayer solidement ses situations. Bientôt, il épousa la fille d'un marchand de ses amis. Belle et prévenante, elle lui donna beaucoup de joie. Il aimait à la voir aller et venir dans la maison. Il aimait ses longs cheveux noirs qui couvraient tout son dos d'un voile uni. Et il s'imaginait avec sérénité vieillir à ses côtés. Lorsqu'un jour, pénétrant dans la cour intérieure de la maison conjugale, il trouva son épouse assise en plein soleil, occupée à sécher ses cheveux fraîchement lavés. Elle lui tournait le dos et n'avait pas pris garde à son entrée. Au moment où elle faisait glisser un peigne d'ébène sur la longue chevelure qu'elle soulevait de l'autre main, il découvrit, au-dessus de la nuque, une cicatrice, veine épaisse et blanche, barrant le cou de la jeune femme. Effaré, il demanda à sa compagne l'origine de sa blessure. Elle baissa les yeux et raconta son histoire. « Je suis que la fille adoptive de celui que j'appelle mon père. En réalité, je suis orpheline. Enfant, je vivais avec mon frère, qui était tout pour moi. Il y a près de 20 ans, nous nous promenions dans une forêt. Il me donna un coup de hache qui me laissa cette marque et s'enfuit en m'abandonnant. Un marchand de passage venait de perdre sa fille. Il me prit en pitié et me recueillit. Je ne sais pas ce qu'est devenu mon frère et je n'ai jamais pu m'expliquer son geste. » L'homme fit préciser à sa femme, en larmes, le nom de son véritable père et celui de son village natal. Lorsque tout doute fut levé, il parvint à maîtriser ses émotions. Mais s'il eut la force de ne rien révéler, la honte et l'horreur l'empêchèrent désormais d'adresser le moindre regard, le moindre mot à celle qu'il continuait d'aimer malgré lui. Bientôt, la vie commune lui fut impossible et il partit en prétextant un voyage d'affaires. Pendant les 6 mois que devait durer son absence, sa femme attendit avec patience. Mais plus d'une année s'était écoulée et elle demeurait seule et sans nouvelles. Elle prit l'habitude d'aller chaque jour, son enfant dans les bras, sur une montagne située tout près de là, afin de guetter, du plus loin qu'elle pouvait, le retour de l'absent. Parvenue au sommet, elle restait debout des heures durant, les yeux fixés sur l'horizon. Un peu avant le village, à droite de la route qui mène à la haute région, il existe une petite montagne isolée, et tout en haut de celle-ci, un rocher. Certains voyageurs décident de faire étape là, au milieu de nulle part, et suivent le chemin qui serpente le long de la montagne. Partis le matin, ils y parviennent à la fin du jour et restent saisis par le spectacle. Le soleil couchant sculpte étrangement la pierre pour lui donner l'aspect d'une femme portant son enfant. Une femme qui leur tourne le dos et regarde au-delà du fleuve, de la forêt, de la lumière qui meurt en l'éclairant. Une femme comme un trait noir sur le ciel, immobile dans son éternelle attente. Il aura sans doute fallu du courage au jeune homme pour tuer sa sœur en espérant ainsi empêcher l'accomplissement de l'inceste. Cependant, malgré sa décision radicale et l'énergie qu'il a mis pour changer de vie, il réalisera la prédiction. C'est un conte plein de désespoir, de tristesse, d'injustice et de malheur. Le courage du jeune homme ne fait pas le poids face à l'écrasante fatalité. Et puisque nous sommes lancés sur la route du désespoir, ne nous arrêtons pas en si bon chemin. Si vous avez trouvé le rocher de l'attente triste, dites-vous bien que ce n'est rien en comparaison de l'histoire à venir. Il s'agit du mythe d'Orphée et Eurydice. Orphée est le fils de la muse Calliope, muse de l'éloquence et de la poésie. Il montre dès son enfance de grandes dispositions à la musique et à la poésie. Apollon lui offre une lyre à 7 cordes, à laquelle il rajoute 2 cordes en l'honneur des muses qui sont au nombre de 9. Héros antique, il charme rochers et arbres qui se déplacent pour l'écouter, attendrit les bêtes les plus féroces et les monstres, et les hommes les plus durs retrouvent la douceur de l'enfance en l'écoutant. En revenant d'une longue expédition aux côtés des Argonautes, il rencontre Eurydice, une dryade, dont il tombe éperdument amoureux. Il se marie rapidement. Eurydice part tous les matins se baigner dans le fleuve en compagnie des naïades. Un berger fruste, du nom d'Aristée dont elle refuse les avances, l'épie depuis plusieurs jours et finit par les pourchasser. Toutes s'enfuient, mais Eurydice marche sur un serpent mortel. Elle meurt instantanément. Orphée, fou de désespoir et de chagrin, se rend à la porte des enfers dans l'espoir de ramener Eurydice. Il descend courageusement dans les profondeurs et charme, avec sa musique plaintive et lancinante, le passeur Charon, le chien à 3 têtes Cerbère, ainsi que les 3 juges des morts, les Euménides. Il arrive devant Perséphone, qui est la femme du dieu des enfers, et Pluton, le roi des morts. Alors, Orphée prend sa lyre et chante. Divinité du monde souterrain où doivent se rendre tous les mortels, acceptez que je vous parle avec sincérité. Non, ce n'est pas pour voir le ténébreux Tartare, qui est l'endroit le plus profond des enfers, que je suis descendu ici. Non, ce n'est pas pour enchaîner le monstre dont la triple tête se hérisse des serpents. Je suis venu chercher mon épouse, atteinte au pied par une vipère, elle a péri au printemps de l'âge. J'ai voulu surmonter ma douleur, je l'ai tentée, mais je ne l'ai pas pu. L'amour a triomphé. L'amour, il est bien connu sur la terre. Mais l'est-il de même ici? Je l'ignore. Mais si l'histoire de cet enlèvement est vraie, vous aussi, l'amour aussi vous a réunis. De grâce, par ces lieux pleins de terreur, par ce chaos immense, par ce vaste et silencieux royaume, rendez-moi Eurydice. Renouez ces jours trop tôt brisés. Vous tenez le genre humain sous votre éternel empire. Un peu plus tôt, un peu plus tard, nous devons tous nous rendre ici. C'est notre dernière demeure. Quand le progrès des ans aura mûri sa beauté, Eurydice aussi pourra subir vos lois. Mais qu'elle vive! C'est la seule faveur que je demande. Si le destin me la refuse, je l'ai juré, je ne veux pas revoir la lumière du jour. Vous aurez alors 2 victimes à la fois. » Tandis qu'il chantait ainsi, les pâles ombres pleuraient. Tantale ne poursuit plus l'onde fugitive et la roue d'Ixion demeure immobile. Les vautours cessent de ronger les entrailles de Titus, les filles de Bélus se reposent sur leurs urnes et toi, Sisyphe, tu t'assieds sur ton rocher. Alors, pour la première fois, des larmes mouillèrent, dit-on, les joues des Euménides attendries par ses chants. Perséphone et Pluton ne peuvent repousser sa prière. Ils appellent Eurydice. Elle était là, parmi les ombres récemment descendues. D'un pas ralenti par sa blessure, elle s'avance. Il l'a retrouvée, mais c'est à une condition. Orphée ne doit pas se retourner pour la regarder tant qu'il n'a pas franchi la vallée de l'Averne, qui est un lac marécageux, une autre entrée des enfers. Sinon, la grâce est révoquée. Ils suivent, à travers le plus profond silence, un sentier raide, escarpé, ténébreux, couvert d'épais brouillards. Ils n'étaient pas éloignés du but. Ils touchaient à la surface de la terre lorsque, tremblant qu'elle ne lui échappe, inquiet, impatient de la voir, Orphée tourne la tête. Soudain, elle disparaît à l'instant. Il lui tend les bras, il veut la saisir, mais il n'embrasse qu'un fantôme, une ombre. C'en est fait. Elle meurt pour la seconde fois, mais elle ne se plaint pas de son époux. Et de quoi se plaindrait-elle? Il l'aimait. « Adieu !» lui dit-elle d'une voix qu'il put à peine entendre. Déjà, l'enfer a reconquis sa proie. Orphée demeure glacé. Perdre deux fois sa compagne. Il prie, il veut repasser l'Achéron, l'un des fleuves des enfers, mais le Nocher le repousse. Et pourtant, sept jours entiers, couvert de poussière, sans prendre de nourriture, il reste sur la rive du fleuve, immobile, en larmes. Ce mythe est d'une tristesse épouvantable. On est en pleine tragédie. Vous vous rendez compte que Orphée perd deux fois la femme qu'il aime ? Il n'en est pas moins un être courageux, porté par l'amour et l'énergie du désespoir. Son amour pour Eurydice alimente son audace. Rares sont ceux qui s'immiscent en enfer de leur vivant pour plaider leur cause. Ici, Orphée met les dieux des enfers face à une évidence. Eurydice mourra quoi qu'il arrive, donc autant que cela arrive le plus tard possible. Mais son courage n'est pas aussi facilement récompensé. Il sera monnayé. Les dieux sont exigeants. Ils ont face à eux quelqu'un qui est volontairement venu en enfer, qui a réussi à charmer le Cerbère, Charon, les Euménides. Il émeut Perséphone et Pluton, mais non, ça suffit pas. Il récupérera Eurydice à la condition de respecter une promesse. D'ailleurs, je me suis toujours demandé pourquoi les dieux ont imposé cette condition. Je ne parle pas du poids du regard qui mériterait une émission lui tout seul, je parle du fait qu'ils sanctionnent Orphée. Est-ce qu'il s'agit d'une question de confiance? Est-ce que Orphée doit faire confiance aux dieux et dans ce cas-là, se retourner vers Eurydice, c'est montrer qu'il ne leur fait pas confiance? C'est vérifier que les dieux ont effectivement tenu parole et qu'Eurydice est bien en route vers la surface de la Terre? Plusieurs interprétations sont ici possibles, mais quoi qu'il en soit, ce mythe est extrêmement tragique et romantique au sens premier du terme, au sens où l'amour et la mort sont inexorablement entremêlés. Et là encore, malgré le courage d'Orphée, la fatalité prendra le dessus, ne laissant aucune chance aux personnages d'échapper à leur destin. Si la musique permet à Orphée d'accéder aux enfers pour plaider sa cause auprès de Pluton et Perséphone, c'est par la musique que le personnage de notre prochaine histoire bravera un interdit malgré lui. Jack, le personnage de La mécanique du cœur, roman écrit par Mathias Malzieu, est né le jour le plus froid de l'année. Son cœur est si fragile qu'il est gelé. La sage-femme lui greffe une horloge et l'adopte. Mais pour que ce cœur fragile dure le plus longtemps possible, Jack doit respecter trois conditions. Premièrement, ne touche pas à tes aiguilles. Deuxièmement, maîtrise ta colère. Troisièmement, ne te laisse jamais, au grand jamais, tomber amoureux. Car alors, pour toujours, à l'horloge de ton cœur, la grande aiguille des heures transpercera ta peau, tes os imploseront et la mécanique du cœur sera brisée de nouveau. Car, comme le lui dit Madeleine, il ne faut pas que tu t'emballes. Chaque battement de ton cœur est un petit miracle, tu sais. C'est fragile ce bricolage. Ça devrait s'améliorer en grandissant, mais il faudra que tu sois patient. Combien de tours d'aiguille des heures ça prendra?
Quelques-uns. Quelques-uns.
Je voudrais que ton cœur se solidifie encore un peu avant de te lâcher dans la nature. Mais au détour d'une balade en ville, il est charmé par le son d'un orgue de Barbarie et sera encore plus charmé par la chanteuse qui s'en accompagne. Voici l'extrait en question. Je croyais que je venais d'entendre le son le plus ravissant de toute ma vie, mais je n'étais pas au bout de mes surprises pimentées. Une fille minuscule, avec des herbes d'arbres en fleurs, s'avance devant l'instrument de musique et commence à chanter. Le son de sa voix rappelle le chant d'un rossignol, mais avec des mots. Ses bras ressemblent à des branches et ses cheveux noirs ondulés embrasent son visage comme l'ombre d'un incendie. Son nez, magnifiquement bien dessiné, est si minuscule que je me demande comment elle peut respirer avec. À mon avis, il est juste là pour décorer. Elle danse comme un oiseau en équilibre sur des talons aiguilles, féminin échafaudage. Ses yeux sont immenses, on peut prendre le temps de regarder à l'intérieur. On y lit une détermination farouche, elle a un port de tête altier, telle une danseuse de flamenco miniature. Mon cœur accélère encore, j'ai du mal à reprendre mon souffle, j'ai l'impression que l'horloge enfle et qu'elle remonte dans ma gorge. Est-ce qu'elle vient de sortir d'un œuf? Est-ce que cette fille se mange? Est-ce qu'elle est en chocolat? Qu'est-ce que c'est de ce bordel? Tout à coup, le coucou dans mon cœur se met à sonner, très fort, bien plus fort que lorsque je fais mes crises. Je sens mes engrenages tourner à toute vitesse, comme si j'avais avalé un hélicoptère. Le carillon me brise les tympans, je me bouche les oreilles, et bien sûr, c'est encore pire. Les aiguilles vont me trancher la gorge. Docteur Madeleine essaie de me calmer avec des gestes lents à la façon d'un oiseleur qui tente d'attraper un canari paniqué dans sa cage, et j'ai atrocement chaud. J'aurais voulu faire Aigle Royal ou Goéland majestueusement cool, mais au lieu de ça, j'ai fait Canari stressé empêtré dans ses soubresauts. J'espère que la petite chanteuse ne m'a pas vue. Mon tic-tac-clac sec, mes yeux s'ouvrent, je suis nez à nez avec le bleu du ciel. Voilà, Jack est tombé amoureux et il brave l'un des trois interdits énoncés par Madeleine malgré lui. Ici, il n'est pas question de courage, on n'a pas besoin de courage physique ni du courage des mots. Au contraire, il s'agit d'un abandon, d'un lâcher-prise et hop, Jack fait l'une des trois choses qui lui étaient interdites, et ce, au péril de sa vie. Alors que faut-il retenir de tout ceci? Que parfois il faut du courage et que celui-ci sera récompensé? Que parfois le courage ne sert à rien? Qu'il ne peut pas tout résoudre, tout contrecarrer? Que parfois il n'est pas nécessaire de faire preuve de courage? Au contraire, il faut juste se laisser porter.
C'était l'émission Compte-gouttes. Je vous dis à dans 2 semaines pour une prochaine émission sur Radio Campus Grenoble 90.8.